avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Lambron, Bruckner, Condorcet, Diderot. Vous avez écouté avec attention la revue de presse de notre ami donc David Abiker, qui essaye à travers les journaux de comprendre ce qui se passe actuellement. Est-ce que l'un et l'autre, vous faites le diagnostic que quelque chose est en train de reculer? Pascal.
Oui, je pense que Macron n'a pas perdu, tout simplement. On a critiqué sa verticalité, son côté technocratique, sa froideur, son mépris. Les communistes l'appellent le méprisant de la République. Mais haï pour haï, autant ne pas céder. Parce que si maintenant il reculait sur la réforme, on le détesterait toujours autant, il serait méprisé. Par conséquent, il a parfaitement raison.
Donc c'est vous ce que vous sentez dans l'air du temps.
Oui, ce que je sens dans l'air du temps, c'est que les
moindres mobilisations,
les syndicats sont en train de perdre pied. Et ce sont les émeutes de Sainte-Soline qui ont fait basculer l'opinion, parce qu'effectivement, les gens ont été horrifiés par ce qu'ils ont vu. Personne ne prend au sérieux les attaques contre la police. Tout le monde voit bien que les policiers ont quand même défendu des propriétés privées et ont eu eux-mêmes beaucoup de blessés, même si on peut déplorer que des manifestants aient été sérieusement atteints.
Et qu'on est empêché, d'ailleurs, on a trouvé les enregistrements, et qu'on est empêché, le SAMU, d'accéder parfois à des blessés.
D'ailleurs, je sais que la famille porte plainte, mais pour l'instant, l'opinion est en train de basculer et les Français vont être obligés de céder devant le principe de réalité. L'Europe entière est à 65 ou 67 ans, ça n'est pas un crime si nous-mêmes nous accédons péniblement jusqu'à 64 ans. Il faut, à un certain moment, se plier à la logique économique.
Et puis nous sommes dans une situation qu'on connaît, qui est une structure française, c'est que nous sommes au début du mois d'avril, le Conseil constitutionnel que connaît bien Marc va intervenir aux alentours du 18, quelques éléments vont être toqués, Marc va nous en parler, mais après nous avons tous les ponts du mois de mai, c'est-à-dire que ça c'est vraiment quelque chose auquel les Français ne vont jamais renoncer, donc organiser les manifestations pendant la période des ponts du mois de mai, ça c'est compliqué, d'autant plus que Mme Bernadette qui va remplacer donc Martinez est sur une ligne qui est beaucoup plus dure que Martinez et très différente de celle de Berger. Revenons au Conseil constitutionnel. Marc, puisque c'est vous qui connaissez mieux cette institution, quelle est d'après vous, on a reçu hier une constitutionnaliste, quelle est d'après vous la possibilité qui existe?
Bon, d'abord, la loi ne supprime pas les ponts. Mais ils ne sont pas non plus dans la Constitution. Bon, à mon avis, on se dirige probablement vers une disjonction de, c'est-à-dire la censure d'un ou deux articles, pas sur le fond, mais plutôt pour des questions de domaine, c'est-à-dire qu'ils ont été mis dans une loi qui n'était pas faite pour ça, mais sans affecter le fond de la réforme et évidemment l'âge de départ à la retraite. Mon sentiment rejoint un peu celui de Pascal, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une usure du mouvement. Le fait que Macron reste droit dans ses bottes, évidemment, est à prendre en compte. Les syndicats ont joué avec le feu. Et en même temps, il y a quand même une différence structurelle avec leur pouvoir d'antan. C'est que la CGT s'appuyait sur le Parti communiste, il n'existe plus, et que la CFDT s'appuyait sur une gauche chrétienne et une partie du PS qui n'existe plus. Bon. Et puis, Sainte-Soline, c'est assez intéressant parce que, à la différence de Notre-Dame-des-Landes, où il s'agissait finalement de préserver un site, là, on a quand même une sorte de guerre, un peu à la Game of Thrones, entre des agriculteurs, puisque in fine, c'est pour eux que sont destinés.
La Confédération paysanne dit c'est pour les gros agriculteurs de l'agriculture industrielle, la FNSEA, etc., etc. Enfin, c'est toujours le même discours.
Je pense que les images disent aux gens qui vont manifester et qui vont dans la rue pour défendre une cause, qui peuvent se retrouver à côté d'excités et qui sont là pour casser du flic. Donc je pense que les images ont des effets dissuasifs aussi sur la présence ou non de manifestants dans la rue.
Dans la presse de ces derniers jours, vous avez lu l'un et l'autre que beaucoup de ceux qui sont hostiles, bon, je redonne les chiffres, entre 700 000 et 2 millions de manifestants, 200 interpellés, 175 blessés et 200 black blocs, c'est quand même relativement peu par rapport donc au week-end de manifestation précédent, c'était le 10e round. Il y a un procès qui a été ouvert depuis une petite semaine à Jean-Luc Mélenchon comme étant le fauteur de troubles de la République, c'est-à-dire l'homme qui joue sur deux tableaux, une sorte de tartuffe, pour employer un mot cultivé. C'est-à-dire à la fois on joue le rôle parlementaire, bien qu'il soit même plus au Parlement, et en même temps, parce qu'il a un nombre de députés quand même important de la NUPES, et en même temps, tout le monde a ressorti, y compris Édouard Philippe dans son émission à Quotidien, sa fameuse déclaration sur comment transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire. Donc Mélenchon, bout de feu.
Oui, alors c'est après avoir été le disons, le serviteur assidu de François Mitterrand et de Lionel Jospin, qui, pour qui il avait une admiration sans borne, il est devenu gauchiste sur le tard, se souvenant de son passé trotskiste. Et il faut voir Mélenchon à l'Assemblée le jour du 49-3. C'est un vautour perché sur les barrières du corral, essayant de voir comment il va tirer profit de ce chaos. Mais Mélenchon est un homme étrange parce que il a renié toutes ses idées. Il était laïque, il s'est allié avec les islamistes. Il était pro-israélien. Il flirte maintenant avec un antisionisme radical, voire avec un certain antisémitisme. Et il s'est présenté aux élections, il a incarné la République face à la police, il s'est d'ailleurs battu avec des policiers et un procureur de la République pour le acte pour lequel il a été poursuivi. Moi, je pense que nous assistons au crépuscule d'un homme qui n'a jamais su quel costume endosser. Et pour moi, Mélenchon a conseillé aux policiers de la brave M, donc vous savez, les voltigeurs et les quads, d'aller se faire soigner. Je pense que le conseil s'applique à lui-même. Et je le dis depuis, à cette antenne depuis très longtemps, je pense qu'il y a un problème de santé mentale chez ce monsieur qui va sans doute assez mal finir s'il n'arrête pas de vociférer dans les micros.
On a remarqué lors de l'intervention qu'il a fait, comme tous les leaders politiques lors de la manifestation d'hier, que justement, tout d'un coup, il était reparti sur une forme modérée de discours, contrairement à ce qu'il avait dit 8 jours plus tôt, pardonnez-moi Marc.
Je crois que Mélenchon, qui est un politique, a très bien compris ce qu'est un effet systémique en France. C'est que on veut couper la tête du roi, et le roi peut s'appeler Sarkozy, Hollande ou Macron, tout en attendant de l'État qu'il nous materne. Or, on est dans un moment, si j'ose dire, de dématernisation. C'est-à-dire, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, il y a de l'inflation, il y a une guerre à nos portes, et l'État demande qu'on travaille plus. Et c'est là que Mélenchon vient se greffer, en bout de feu, en effet. Moi, il me fait penser à ce qu'avait dit Maxime Gorki, d'un orateur stalinien. Il prêche l'amour avec haine. Et ce qu'il prêche, c'est l'idée que la violence légitime ne serait pas ou ne serait plus du côté de l'État, mais du côté de ceux qui critiquent l'État. C'est ce qu'on a entendu ces dernières semaines. Alors après, je veux pas être trop long, mais enfin, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire politique d'un Mélenchon ? C'est un imaginaire, là encore, français. Révolutionnaire, 1830, 1848, 1870. La liberté guidant le peuple, après tout, elle est dans les livres d'histoire. Et c'est un tableau qui est hérissé de pétoirs et de pistolets.
Gavroche, et de jeunesse.
Gavroche, et de jeunesse. Alors, Gavroche, alors, personnage fictif, mais qui se greffe sur un événement réel qui a été en 1832, les obsèques du général Lamarque, émeute dans Paris, 600 morts. Pour ne pas parler de la semaine sanglante de la Commune, en mai 71, 20 000 morts. Autrement dit, dans l'histoire du communisme ou de ses avatars, la vie humaine ne pèse pas cher. Et je pense quelqu'un comme Mélenchon, dans son lénino-trotskisme, est aussi agi dans sa tête sur fond de fresques rouges.
Mais Marc, ce 19e siècle éruptif que vous filialisez, enfin, ou plutôt que vous anticipez sur le 20e siècle, c'est quand même un 19e siècle dont l'aboutissement, l'envie, le déclaratif avec des gens comme Gambetta, etc., c'était la République. C'est-à-dire que le jour où la République a été instaurée, ces manifestations éruptives se sont arrêtées. Après, il y a eu les grandes grèves de 14. On est passé à une autre revendication qui était celle du monde ouvrier, Carmo, puis après 36, mais c'était plus le même registre. Oui, Avec ce paradoxe que le premier président de la République, Mac Mahon, était royaliste. C'est-à-dire qu'on a commencé par installer la République avec un royaliste.
Oui, mais après 1875 en France, il y a 1917 en Russie. Il y a Mao en Chine, il y a le Cambodge. Donc je pense que oui, on est au-delà précisément du simple imaginaire républicain.
Une question à tous les deux.
N'oubliez pas une chose, pardon. C'est qu'il y a eu une extrême gauche, très minoritaire, mais assassine. Il y a pas si longtemps, ça s'appelait la bande à Bader en Allemagne, ça s'appelait
les Lumières Rouges. Il y a une décision concernant les Italiens en France.
Action directe.
On vient d'avoir une décision qui a été prise donc concernant les Italiens en France, justement les Brigades Rouges, qui peuvent rester et qui ne seront pas renvoyés en Italie. Vivorca, donc le sociologue, question à vous, Pascal Bruckner, pour justement imaginons ce qui n'est pas un souhait, parce qu'on n'a pas souhaité quelque chose, c'est le mouvement social et la politique qui décideront. Mais imaginons qu'on arrive à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un mélange entre un pourrissement, une négociation, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait de ce résidu de violence qui naît dans une génération qui accède à la politique, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 25 ans, qui vont forcément vivre ça comme un épouvantable désenchantement. Vivorca, lui, dit le risque principal, c'est pas que finalement on arrive à un accord, parce que peut-être qu'on va y arriver, c'est que tous ceux qui ont milité contre cet accord vont se retrouver en marge de la société, puisqu'ils n'accepteront pas ce qui aura finalement été décidé.
Eh bien, ça s'appelle l'âge adulte. Renoncer à ses désirs, c'est tout simplement la maturité. Alors, il faut voir que la France fait des émeutes pour ne pas faire la révolution et rêve de révolution pour ne pas faire de réforme. J'entendais hier soir un débat assez fumeux sur le fait qu'il faudrait être comme les Allemands, avoir une culture du compromis. Les Français ne sont pas des Allemands, ce ne sont pas des Suisses, ce ne sont pas des Italiens ni des Anglais. La révolution reste leur imaginaire. J'ai dit ici souvent qu'ils sont hantés par un bolchevisme fantôme. Donc, il faut l'accepter. Chaque fois qu'un gouvernement, quel qu'il soit de droite ou de gauche, voudra changer quelque chose, faire bouger les lignes, il y aura du chaos, des gens qui manifesteront. Et il faut bien voir que pour la jeunesse, ces gens de 25 ans dont parle Vievorka, l'émeute, c'est le baccalauréat de la rue. Dans une société où l'autorité des pères a disparu, où le rôle paternel n'existe pratiquement plus, affronter un CRS, lancer un pavé, se prendre un coup de matraque, c'était déjà le cas de ma génération, c'est véritablement accéder à une sorte d'héroïsme.
Comme la première clope, quoi.
Oui, c'est la première clope, comme le premier rapport sexuel. Tout d'un coup, on existe aux yeux des autres, les yeux de vos copains brillent, et c'est là-dessus que jouent évidemment les groupes beaucoup mieux organisés, comme les Black Bloc, qui ne sont pas la chienlit gaulliste ou la racaille des cités. Ce sont des gens qui ont un projet politique, et on a raison de les poursuivre. Mais pour les jeunes gens, c'est le jeu du chat et de la souris, on court, on suffoque sous les grenades lacrymogènes, on se fait arrêter, les parents viennent vous chercher. Il y a aussi une chose qu'on doit noter là-dessus, c'est il faut se souvenir de ce qu'a dit Pier Paolo Pasolini à propos de mai 68. Des fils de bourgeois révoltés contre leur père et qui tapent sur des flics qui sont eux-mêmes des ouvriers, des paysans. Bah, c'est ça aussi. Tous ces black blocs, ce sont des gens en général de bonne famille, avec des diplômes, et c'est une révolte de la bourgeoisie contre elle-même, beaucoup plus qu'une... Et tout ça fait au nom du peuple.
Dernière question à vous, Marc, le président de la République. Beaucoup de gens essayent de sonder le mystère de ses intentions, parlent de son inflexibilité, voire de son inhumanité, et lui rappellent François Mitterrand, la manifestation sur l'école privée, puis le double Chirac de 95 et de CPE... Connaissant le président de la République pour avoir lu tous les articles, les biographies et l'avoir rencontré comme tous les journalistes, et je parle aussi de vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour lui, c'est l'antithèse. C'est-à-dire que plus on va lui montrer que l'histoire a fait preuve de sagesse et de renoncement, plus on sent que à son âge, c'est exactement l'exemple inverse. C'est-à-dire que plus on lui dira Mitterrand a reculé ou Chirac l'a fait, moins il aura envie de le faire.
Oui, le président est têtu, le président est prométhéen autant que jupitérien, le président est un idéogramme, et il va en Chine, l'empire du milieu, il aime bien le milieu d'ailleurs.
Il y a un déplacement en fin de semaine, comme Madame Borne d'ailleurs, deux déplacements,
oui.
Et après effectivement c'est le départ vers la Chine.
Voilà, donc c'est le vent d'Est qui souffle sur Macron, mais évidemment il ne cédera sur rien. Et on voit bien d'ailleurs qu'un Laurent Berger a peur de ce qu'il a déclenché en quelque sorte, qu'il y a comme une sorte de recul en ce moment.
Pour être précis, il va jeudi à Gap, Macron, pour donc converser sur l'eau. On est dans la suite de Sainte-Soline et Madame Borne va dans la Nièvre vendredi.
Voilà. Mais je suis d'accord avec ce que disait Pascal, c'était que le président, il a plus jeune que lui en face. Et j'entendais l'autre jour sur le trottoir deux jeunes filles de 18 ans qui parlaient comme une sorte de déniaisage très excitant, le fait pour la première fois dans leur vie d'avoir eu un cordon de CRS qui était en face d'elles, et elles avaient le sentiment d'accéder à l'histoire française. Et l'histoire française, c'est une histoire de barricades, dont Malraux disait d'ailleurs qu'en mai 68 c'était archaïque, parce que les barricades étaient édifiées au 19e siècle pour faire barrage aux chevaux, et que la police ne charge plus à cheval. Voilà un point de logistique policière.
8h57 sur l'antenne de Radio Classique, merci à tous les deux. 68, on y était quand même, car ce fut un moment très particulier et très étonnant. 57, nous avons rendez-vous avec Julie. Nous allons prendre connaissance des dernières informations et après ce sera l'incarnation d'histoire sur l'antenne de Radio Classique Francfort.